Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Invité, deux questions politiques aujourd'hui. C'est le nouvel homme fort du Rassemblement National. Son parcours est une belle illustration de la recomposition politique, passée de la droite à l'extrême droite, élu dans une circonscription du Nord qui était à gauche depuis 1958 et qu'il a emporté aux dernières élections législatives. Il vient de lancer un appel à ses amis de droite, ceux qui sont toujours chez les Républicains, pour qu'ils transgressent les ordres de leurs dirigeants, fermés les guillemets, et qu'ils rejoignent le Rassemblement National. Pas si simple, qu'est-ce qui pourrait faire céder la dernière digue? Nous lui poserons la question. Le porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu, s'est installé dans notre studio. Pour intervenir, le hashtag Question Paul ou l'application France Inter.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Vous avez décroché la première interview de Nicolas Sarkozy, une exclusivité ce soir sur France 2.
À 20h30 chez Laurent Delahousse.
Et on parlera du livre Passion, passion au pluriel que signe Nicolas Sarkozy et qu'a lu également Françoise Fressoz. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait Sébastien Chenu, nous le découvrirons dans quelques instants. C'était l'un des feuilletons de la semaine, le MEDEF qui a renoncé à inviter Marion Maréchal à son université d'été, mais c'est un épisode parmi d'autres, Nathalie Saint-Cricq, qui se sont joués autour des relations entre droite et Rassemblement
Exactement.
National.
Exactement. Alors, on a eu cette semaine un dîner entre des Républicains et puis Marion Maréchal. On a eu une invitation du MEDEF qui a mal tourné, preuve que finalement, elle est totalement rentrée dans le paysage politique. Est-ce que finalement, c'est pas elle qui est dans la bonne voie, c'est-à-dire la vôtre, vous qui avez été le premier à sortir des LR pour aller au Rassemblement National? Est-ce que c'est là que ça se passe, cette fameuse union des droites, et qu'elle incarne mieux que Marine Le Pen, cette union des droites que vous souhaitez, que vous appelez de vos voeux?
Sébastien Chenu.
Merci de me recevoir. D'abord, juste, et pour qu'on parte sur de bonnes bases peut-être, vous avez dit, monsieur Ali Badou, que j'avais rejoint l'extrême droite.
Oui.
Voyez-vous, moi j'ai vérifié, j'ai lu, je me suis renseigné sur ce qu'est l'extrême droite dans l'histoire. La défense de l'antiparlementarisme, c'est la contestation de la démocratie, c'est une doctrine basée sur la race, c'est donc rien du tout de ce que je défends, de ce que défend le Rassemblement National. Et j'aimerais qu'on puisse dire les choses clairement parce
que... Non mais c'est intéressant justement de savoir pourquoi vous récusez l'expression.
Oui, parce qu'elle est fausse et qu'elle est faite pour être dévalorisée, pour dévaloriser la parole des responsables et des élus du Rassemblement National. Il n'y a rien d'extrémiste dans ce que nous défendons. Je me situe dans un cadre parfaitement républicain. Nous défendons un certain nombre d'options politiques qui sont d'ailleurs choisies par d'autres populations à travers le monde, et le qualificatif d'extrémiste me semble être particulièrement pernicieux.
Si je l'employais, c'est que c'est le résultat d'une enquête qu'a menée Ipsos il y a quelques mois. 75% des Français considèrent le Rassemblement National comme un parti d'extrême droite. Près d'un sympathisant Rassemblement National sur deux le pense aussi.
Alors,
75% des Français se trompent et la moitié de vos sympathisants
alors,
également.
Monsieur Badou, je vous renvoie à une autre enquête qui dit que 75% ou 80% des Français considèrent que les journalistes sont de gauche. Et vous ayez en face à moi, je ne dis pas monsieur le journaliste de gauche, parce que je ne cherche pas à décrédibiliser votre
vous ni ne
votre
savez pas profession, ce que je vote.
Exactement, ni votre personnalité.
En revanche, je sais et où pourtant, vous êtes assis à l'Assemblée.
Dans l'hémicycle,
vous êtes assis à droite.
Je pourrais.
Tout à droite, mais à l'extrême droite de l'hémicycle.
Il ne vous a pas échappé que cette assise, cette place, nous a été désignée d'office. Nous pourrions tout à fait.
C'est la même chose
siéger
au Parlement européen.
Nous pourrions
à
tout
Strasbourg,
à fait siéger
à Bruxelles.
Au milieu et en haut. La République en Marche n'est pas un parti que vous retrouvez sur la classification droite et gauche, qui à mon avis n'existe plus. Je crois que le Rassemblement National n'a rien d'un parti d'extrême droite, et je suis sûr que vous n'avez rien d'un journaliste de gauche.
Mais c'est pas une insulte en l'occurrence d'être un journaliste de gauche, à moins que ça le soit dans votre bouche. D'un mot, 75%
des Français, la réalité d'être d'extrême droite,
qui considèrent le Rassemblement National comme un parti d'extrême droite, et on va passer à autre chose. Ils se trompent.
Oui, je pense, parce que à partir du moment où on leur dit matin, midi et soir, c'est l'extrême droite, ça finit évidemment depuis des années par rentrer dans les têtes. Mais je vous ai expliqué ce qu'était l'extrême droite, ce qu'était l'extrême droite dans l'histoire, et qu'elle n'a rien de compatible avec ce qu'est le Rassemblement National. Voilà.
Il y a quand même peut-être deux éléments à ajouter, c'est qu'on voit bien que le regroupement des partis populistes au Parlement européen a été quand même freiné par cette question, c'est-à-dire qu'il y a des partis européens qui ont refusé de faire l'alliance avec vous. notamment parce que il y avait des suspicions sur ce qu'a été le lepéniste. Et puis il y a le nom de Le Pen, c'est-à-dire que Marine Le Pen a effectivement d'une certaine façon entre guillemets dédiabolisé le parti, mais il y a toujours un doute sur qui sont les militants, qui sont les adhérents du FN, et est-ce qu'il n'y a pas quand même un fond de racisme et d'anti-républicanisme dans vos militants. Et ça c'est quand même quelque chose qu'on ressent.
Je crois, madame, que ce doute Sébastien n'existe Chenu. Que dans les esprits de ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face. Nous sommes un mouvement souverainiste, populaire, qui défendons effectivement l'identité de la France, qui défendons la protection du modèle social français, mais en cela, il n'y a rien d'extrémiste, je le rappelle.
Non, mais pourquoi, comme disent certains au Parlement européen, refuse de travailler avec Marine Le Pen.
Les Polonais, les Hongrois, les Espagnols, ça en fait quand même quelques-uns.
Il y a des tas de raisons aussi différentes qu'il y a de nationalités. Par exemple, les Hongrois de M. Orban ont souhaité, et l'ont indiqué, travailler avec des gens qui ont été en responsabilité gouvernementale et ne veulent pas se mettre dans des coalitions avec des gens qui ne l'ont pas été forcément. Donc ils ont fait des choix. Donc les choix sont toujours un peu plus compliqués, mais je crois, et puisqu'on parle du Parlement européen, que les choses sont en train de se réorganiser. Nous sommes aujourd'hui, de mémoire, le cinquième groupe au Parlement européen. Nous avons multiplié par deux nos élus. Il y a, je crois, 200 parlementaires européens qui sont anti-fédéralistes, on pourrait dire ça comme ça, ou en tous les cas, ou souverainistes, ou critiques de la construction européenne.
Mais ils ne sont pas dans le même groupe.
Mais ils ne sont pas dans le même groupe, tout comme d'ailleurs les députés qui sont fédéralistes ou partisans de ce modèle européiste ne sont pas eux-mêmes non plus dans le même groupe.
La question des rapprochements entre droite et extrême droite, Françoise Fressoz, et j'aimerais
entre
justement.
Entre droite et Rassemblement national, c'est plus simple. Vous savez, c'est pas trop dur à dire, je vous
rassure. Non, en l'occurrence, je l'assume complètement. Ouais. Entre Rassemblement National et LR, quand on va sur le site du Rassemblement National, on voit que vous avez comme référence le général de Gaulle.
Parmi les références, d'ailleurs.
Napoléon Bonaparte et le général de Gaulle, mais le général de Gaulle, Napoléon Bonaparte sont des références très fortes chez les Républicains. C'est un fond culturel commun aujourd'hui que vous assumez d'avoir avec le parti dominant, enfin celui qui a été le parti dominant de la droite française.
Non, mais je vous dis, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'était le gaullisme, c'était justement la capacité à transcender les courants droite et gauche. Moi, je trouve l'œuvre du général de Gaulle, la résistance, la constitution, etc., très intéressante. Je trouve plus critiquable sur 62 et l'Algérie. C'est mon approche des choses. Je ne me définis pas comme gaulliste, mais je retiens ce qu'a apporté, notamment en esprit de résistance, de dépassement des clivages, le général de Gaulle à notre pays. Donc, ça fait partie des références possibles.
Soyons concrets. Depuis plusieurs jours, enfin, je pense à le week-end dernier, je crois, à La Rochelle, Marine Le Pen, qui en appelle au maire LR pour venir effectivement au Rassemblement National. Je pense à ce dîner, effectivement, dont parlait Nathalie Saint-Cricq autour de Marion Maréchal.
On sent que vous allez. De Marion Maréchal avec
des élus, les Républicains. On sent que vous allez les chercher. Est-ce que ça marche? Moi, j'ai envie de savoir très concrètement. Est-ce qu'il y en a qui font le grand saut? Est-ce qu'il y en a qui franchissent le Rubicon? Combien aujourd'hui vous avez d'élus LR qui viennent frapper à votre porte?
Alors, Sébastien Chenu. D'abord, ce n'est pas une problématique franco-française. Vous avez peut-être pu voir que l'ancien président de la République allemande, qui n'est pas quelqu'un de très connu, qui s'appelle M. Gauck, avait demandé que la CDU envisage des accords avec l'AFD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partis populistes ou qui défendent la nation, qui sont en position de force dans un certain nombre de pays, eh bien, deviennent les points centraux du jeu politique.
Mais ce n'est pas ma question.
Je vais vous répondre. Nous devenons, et permettez-moi cette rivalité, mieux vaut faire envie que pitié. Oui, nous faisons envie à nos adversaires politiques, en tous les cas d'hier, comme l'étaient les Républicains. Aujourd'hui, les dirigeants des Républicains, et ça va répondre à votre question, sont fascinés par Emmanuel Macron. Effectivement, nous les verrons les uns après les autres rejoindre Emmanuel Macron, que ce soit Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, etc. Ils iront donner la main à la République en marche.
Vous ne pouvez pas dire ça, là, ils essayent de résister à Emmanuel
Macron. Non, justement, M. Bertrand héberge M. Darmanin, ministre de la République en marche, dans sa majorité à la région, majorité que je combats en étant également élu conseiller régional. Donc nous ne nous intéressons pas, au cador des Républicains. Ils sont fascinés par Emmanuel Macron. Ce qui nous intéresse, c'est les gens qui, avec sincérité, et il y en a parmi les parlementaires, c'est sûr, il y en a parmi les militants, il y en a parmi les adhérents, il y en a énormément parmi les électeurs des Républicains, qui sont intéressés par le discours que nous proposons et qui a été, il faut bien le dire, validé par deux fois comme étant la principale opposition à Emmanuel Macron aux présidentielles et aux européennes.
Mais pour répondre à la question que j'ai tenté de vous poser en vain au début, est-ce qu'ils ne sont pas fascinés, vos Républicains? Donc vous parlez plus par Marion Maréchal que par Marine, parce que c'est quand même elle qui a l'air, y compris dans sa doctrine économique, d'avoir un corpus, si tant est qu'elle en ait un, qui est plus proche des Républicains que Marine Le Pen. Est-ce que c'est pas Marion l'avenir par rapport à votre tentative et votre appel au
mais République. Mais il est probable que Marion Maréchal, avec des positions qui sont peut-être plus conservatrices sur le sociétal et plus libérales économiquement, intéresse davantage les leaders des Républicains.
Bah, vous avez intérêt à miser sur elle,
non ? Est-ce que c'est très grave d'ailleurs ? Eh bien non, nous avons fait un choix qui dépassait tout cela. Nous considérons que l'union des droites, c'est restrictif. C'est un peu comme si vous parliez finalement de l'union de la gauche. On trouverait ça particulièrement obsolète. On aurait un retour en arrière qui aurait l'impression d'être complètement obsolète. L'union des droites me semble très peu ambitieux. Il faut aller bien au-delà. Vous avez dit, Monsieur Badou,
ça veut dire
je
quoi,
suis
bien
élu. Ben, je suis élu d'une circonscription qui, depuis 1958, n'avait jamais élu autre chose qu'un député communiste ou socialiste. Donc, par conséquent, dans ma circonscription dans laquelle M. Bellamy a fait à peu près 1% des voix, se rangeant derrière le parti animaliste, eh bien, dans ma circonscription, j'ai une majorité d'électeurs qui me font confiance et qui, toute leur vie, ont pourtant voté à gauche, probablement. Donc, par conséquent, ils ont eux-mêmes cassé les codes. Ils ont eux-mêmes clarifié la situation et démontré que l'union des droites, en élisant un homme qui vient de la droite, je suis un homme qui vient de la droite. Je ne dis pas que nos identités politiques disparaissent. On sait d'où on vient. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce schéma droite-gauche, il a été par les Français renvoyé aux oubliettes et par deux fois.
Françoise Fressoz.
Ce qu'on sent, c'est que vous essayez de briser le plafond de verre qui fait que vous progressez aux élections, mais vous n'arrivez pas à prendre le pouvoir. Est-ce que la tante et la nièce sont complémentaires ? Est-ce qu'elles se parlent en ce moment ou est-ce qu'elles sont en rivalité profonde pour essayer de faire casser ce plafond de verre ?
Elles se sont toujours parlé, elles se parleront, je pense, toujours.
Et en ce moment, est-ce qu'elles se parlent ?
Je l'imagine tout à fait.
Le dîner avec les maires LR, dont on parlait tout à l'heure, autour de Marion Maréchal, Marine Le Pen était au courant ou pas ?
Alors, je l'ignore, mais Marion, n'étant pas dans la politique active, n'assumant pas de responsabilité dans notre mouvement...
Il n'y a que vous qui le pensez,
non,
ça,
elle n'assume pas de responsabilité, elle n'a pas un devoir d'expliquer avec qui elle déjeune. Vous savez, moi, j'ai déjeuné la semaine dernière avec un député UDI. Est-ce que je dois en rendre compte ? Est-ce que je dois, peut-être pour le gêner d'ailleurs, balancer son nom ? Non, je veux dire, on n'est quand même pas en Union soviétique, on a le droit de discuter avec qui on veut. Nous avons des échanges très libres avec beaucoup de parlementaires.
Mais ça veut dire que ce n'était pas une initiative du Rassemblement national ?
Non, ce n'est pas une initiative du Rassemblement national. C'est une initiative de Marion Maréchal et d'un certain nombre de députés républicains qui ont visiblement plus de mal à l'assumer, si j'en crois les quelques déclarations, mais qui signifie que le sectarisme, l'ostracisme vient toujours des mêmes. Nous parlons à tout le monde. Quand nous accueillons M. Andrea Cotarac, élu régional de la France Insoumise, qui d'ailleurs s'est démis de son mandat parce qu'il considérait qu'il avait été élu sous le label d'un parti politique qui n'était plus celui qu'il souhaitait rejoindre. Eh bien, nous l'accueillons parce qu'il nous rejoint sur ce que nous défendons. Nous ne faisons pas un exercice de contorsion. Or, les Républicains, parce qu'ils ne savent plus où ils habitent, parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils défendent, sont incapables de choisir.
Vous les décrivez soumis, je vous cite, aux injonctions du politiquement correct.
Oui, c'est vrai.
C'est la raison pour laquelle ils refusent de s'allier, par exemple, avec le Rassemblement national.
En réalité, je pense qu'il ne s'agit même pas d'alliance dont il faut parler.
Enfin,
nous n'avons jamais parlé d'alliance.
De vous rejoindre.
Les histoires de tambouille, d'appareils politiques bien souvent dépassés.
Attendez, c'est moins net que ça, parce que sur les municipales, Marine Le Pen, elle tend quand même la main. Elle dit qu'il y aura peut-être des plateformes communes. Donc, vous pouvez il y aura peut-être des alliances.
Pour les municipales, je vais résumer, je vais vous dire, une partie de notre stratégie, cette belle phrase de Montaigne, je vais vers celui qui me contredit. Et pour les municipales, il faut avoir la capacité d'accueillir des gens qui ne pensent pas forcément comme vous au niveau national, mais qui peuvent s'entendre avec vous sur un projet local. C'est ce que nous allons faire et nous accueillons sur nos listes, oui madame, des gens qui viennent des Républicains, et oui, je vous le dis dans le Nord, des gens qui viennent du PS, du PC, d'appareils syndicaux dont les leaders ne nous font aucun cadeau lors des périodes électorales. Nous accueillerons de bonne foi des gens qui sont d'accord avec nous sur ce que nous proposons aux Français.
Mais ça, c'est des gens qui rejoignent le Rassemblement National
non,
ou comment vous voulez
demandons...
organiser tout ça ? Vous imaginez un grand parti, une confédération à quoi ça peut ressembler ?
Nous sommes en train de... Thierry Magnani est en train de réactiver la droite populaire, qui pourra être, puisqu'il en est le dépositaire, un mouvement, une structure qui accueillera des gens qui se définissent comme de droite et qui veulent travailler avec nous. On imagine qu'Andrea Cotarac et d'autres pourront eux-mêmes organiser quelque chose qui s'adressera peut-être à des Français qui se définissaient de gauche, mais il n'est pas dans notre option de produire des systèmes d'alliance, de bidouillage mariage entre partis politiques. Nous sommes un mouvement de rassemblement et nous ne comptons pas demander des cartes d'identité politique aux gens qui nous rejoignent.
Non, mais d'accord, mais indépendamment des cartes d'identité, si vous faites une espèce de rassemblement qui va de la France insoumise avec Monsieur Cotarac à des gens des Républicains, à des gens du Rassemblement national, à tout ça, au bout d'un moment, ça va être une sorte de parti ou de plateforme attrape-tout, sans idéologie, sans fond et simplement avec comme dénominateur commun d'être contre ou d'avoir une référence populiste. Donc il va falloir, à un moment donné, que vous nous disiez exactement ce que vous pensez sur le rôle de l'État, l'assurance chômage, les retraites et tout.
Et on va y venir.
On sache un peu où on va.
Alors, madame, je crois que les Français savent à peu près ce que nous pensons sur le rôle de l'État, sur l'immigration, la souveraineté,
l'identité, etc. Mais Marion Maréchal pense pas la même chose,
etc. Non, mais Marine Le Pen a été élue par les adhérents du mouvement sur une ligne très claire. Mmh. Et donc, les gens qui nous rejoignent savent sur quoi ils nous rejoignent. Mais souvenez-vous, Emmanuel Macron a fait, après Marine Le Pen, la même analyse, celle qui considère à accueillir des gens qui venaient de la droite et de la gauche, à s'allier, lui, il s'était allié avec le Modem. Nous avons eu un partenariat avec Debout la France qui n'a pas perduré du fait du souhait de Nicolas Dupont-Aignan d'aller sous ses propres couleurs, mais on ne sait pas si demain on ne renouera pas ce type de partenariat, comme Emmanuel Macron l'a eu avec le Modem.
Mais regardez, la France
nous accueille. Je termine mon propos. Non, j'ai dit Marine Le Pen a été la première à faire cette analyse. Nous avons donc accueilli des gens qui venaient de la droite et de la gauche. Nous avons accueilli des personnalités qui avaient assumé des responsabilités en étant identifiés comme Thierry Mariani chez les Républicains, tout comme Emmanuel Macron a accueilli des gens comme Bruno Le Maire. Et puis, nous avons noué des partenariats.
Pareil, donc,
vous voyez, c'est un effet
de
miroir.
Sur l'immigration, par exemple, on peut considérer qu'entre ce que Marine Le Pen pense, ou ce que Mario Maréchal pense, et ce que des gens qui ont pu être proches de Jean-Luc Mélenchon ou de la France Insoumise penchent, eh bien, une espèce de grand écart ou d'écart de 180, voire 360 degrés.
Eh bien, si j'écoute Adrien Quatennens, qui est le nouvel animateur, je crois, de la France Insoumise hier, il disait qu'effectivement, notamment sur le communautarisme, il y avait, à travers le Burkini, un repli communautaire très fort. Je crois qu'il y a, dans un électorat, même de gauche, un attachement incroyable à la laïcité, à l'esprit républicain, à ce qui fait l'identité française. Je crois que ce n'est l'apanage de personne et nous sommes en capacité d'accueillir qui pensent que oui, la défense de l'identité nationale, c'est quelque chose d'important. Et s'ils ont voté pour la France insoumise, ils sont tout de même les bienvenus.
Étonnant, parce que vous fustigez le terrorisme intellectuel de la gauche qui détruit tout depuis des décennies. Qu'est-ce que c'est que ce terrorisme intellectuel ?
Non, mais c'est cette bien-pensance, vous savez, ce terrorisme intellectuel, c'est, et l'actualité nous le montre, c'est, il est bien symbolisé, je trouve, par la petite Greta. Par cette gamine de 16 ans, devant lequel il faut plier le genou.
Jeune militante suédoise.
Qui est la nouvelle Leonarda, en fait. Qui vient faire la leçon aux politiques matin, midi et soir.
La nouvelle Leonarda ?
Oui, vous savez, c'est Leonarda, c'était cette demoiselle.
Je vois pas le rapport.
Ouais. Leonarda, elle venait faire la leçon au président de la République en lui disant qu'il fallait qu'elle l'accueille. Eh bien, Greta, c'est la même chose. Elle vient faire la sont aux dirigeants du monde entier, ou en tout cas aux dirigeants européens qui ont eu quand même, et je tiens à signaler, la bonne idée de ne pas l'accueillir à la tribune pour écouter son discours, parce que tout, ça ne reste quand même qu'une enfant de 16 ans qui ferait bien mieux d'étudier en classe
sur le réchauffement climatique.
Oui, enfin, excusez-moi, je pense que les dirigeants de ce monde ont la capacité à prendre conscience des problématiques climatiques sans avoir à mettre le genou à terre devant cet enfant de 16 ans.
Vous êtes surtout là parce que vous êtes mis
pas tout en même temps.
Pardon, toute la séquence qui se passe montre justement qu'il y a un retard très fort des chefs d'État par rapport à l'urgence climatique. Donc, une gamine de 16 ans vienne tirer la sonnette d'alarme, c'est pas mal, non, démocratiquement.
Madame, vous pouvez être fascinée par une enfant de 16 ans. Permettez, c'est bien ce que je dénonce, de ne pas avoir la même fascination.
Non, mais c'est pas fascinée, c'est simplement qu'elle pose un problème, qu'on l'aime et qu'elle soit agaçante.
Attendez. Mais vous êtes militant vous-même depuis l'âge de 15 ans.
Oui, mais je n'ai pas fait la leçon. Voyez-vous, à l'âge de 15 ans, on ne m'a pas offert les tribunes qui sont offertes à cette demoiselle.
Fiche.
D'ailleurs, je pense que beaucoup doivent le regretter à l'époque de ne pas m'avoir accueilli dès l'âge de 15 ans dans leurs émissions, probablement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce système de la bien-pensance vous oblige parce que cette demoiselle vient vous donner un discours et oblige les politiques à mettre le genou à terre et à vénérer.
Mais alerter sur le réchauffement climatique, je ne vois absolument pas ce que ça a à voir avec la bien-pensance.
Je vous ai dit que ce sujet de fond était important, mais qu'on n'avait pas à faire des courbes à une enfant qui est en fait...
Mais c'est pas des courbettes, c'est une jeunesse engagée. C'est plutôt positif, jeunesse engagée.
Mais je vois qu'elle vous fascine. Permettez que ce ne soit pas partagé.
Non, moi, je voudrais revenir là-dessus. Parce que
c'est votre
pas
détestation
du tout ça.
Qui nous interpelle.
On n'est pas fasciné par
cette détestation.
On n'est pas fasciné par cette gamine, mais cette gamine...
Un peu quand même.
Cette gamine a suscité une mobilisation citoyenne. Vous passez complètement à côté.
Madame, elle n'a pas suscité une mobilisation citoyenne. Je crois que les thématiques environnementales, et on a pu le voir dans notre pays, notamment lors d'élections européennes précédentes, ont déjà atteint les Français. Les Français ont cette conscience. Que cette gamine qui soit, je pense, utilisée comme un effet marketing, comme un outil marketing dans la politique...
Rassurez-vous, elle n'est pas française, elle est en Suède. Et si la France quitte Schengen, comme vous le réclamez, elle aura besoin d'un visa pour venir en France.
Je n'ai aucune détestation pour cet enfant que vous adorez.
Merci.
On va pas y arriver.
Du compliment. Mais si, on va y arriver. Il est 12h24. Votre portrait, Sébastien Chenu. Il est signé Karine Becker.
Sébastien Chenu, je le disais à l'instant, vous avez commencé à militer à l'âge de 15 ans seulement. Ce qui signifie que vous faites de la politique depuis un petit peu plus de 30 ans. Et la méthode pour espérer y arriver que vous avez appliquée était au départ assez classique. Je m'explique. D'abord, une implantation locale. À 28 ans, vous devenez adjointe au maire de la ville où vous êtes née, c'est-à-dire à Beauvais. Ensuite, des postes en cabinet ministériel. Vous avez été, Sébastien Chenu, on l'avait oublié, le chef de cabinet, entre autres, de Christine Lagarde. Sauf que ce que vous souhaitez, vous, c'est évidemment une vraie carrière, en pleine lumière. Vous vous rapprochez donc de Nathalie Kosciusko-Morizet. À l'époque, elle est la candidate à droite pour la mairie de Paris. Mais comme vous n'obtenez pas ce que vous espérez, vous allez regarder à gauche, du côté d'Anne Hidalgo, que vous tentez de rallier, et cela n'a pas marché. Voilà comment vous, Sébastien Chenu, défenseur des droits LGBT, c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé, en arrive à accepter la main tendue de Marine Le Pen, pourtant opposée politiquement et même farouchement au mariage homosexuel.
Nous sommes pour l'abrogation de la loi Taubira, pour l'amélioration du PACS. Il considère dans sa démarche que cette divergence entre nous n'est pas suffisante pour ne pas venir rejoindre la coalition des patriotes.
13 décembre 2014, vous vous souvenez de cette conférence de presse pour annoncer donc votre ralliement au Rassemblement Bleu Marine. Définitivement, vous quittez l'UMP et définitivement, vous acceptez d'abandonner Gaylib, cette association que vous avez fondée à droite et que vous avez portée pendant plus de 10 ans. C'est vrai. Cela dit, en échange, pour vous, Sébastien Chenu, tout s'est accéléré. Les postes, les responsabilités se sont multipliés. Vous êtes devenu conseiller régional des Hauts-de-France, pour commencer. Ensuite, le Front National vous a confié sa Fédération du Nord pour la diriger. Et depuis 2 ans, vous êtes élu député. Un député dont les formules sont toujours très préparées, assez ciselées, avant de passer en salle des quatre colonnes ou avant de monter à la tribune de l'Assemblée.
Tout cela, j'allais dire, sans même faire lever les yeux de Madame la Ministre, qui préfère probablement envoyer des SMS que de m'écouter, de me regarder lorsque je lui parle de la souffrance d'un certain nombre de personnels soignants dans notre territoire. Ce mépris, Madame, vous l'incarnez à travers votre comportement dans l'hémicycle.
Cette escarmouche du 26 novembre 2018, un peu facile, non? Je vous mets au défi avec votre portable dans l'hémicycle de ne jamais être pris. En tout cas, aujourd'hui, Sébastien Chenu a 46 ans. Vous êtes donc député, porte-parole du parti aussi, et proche parmi les proches de Marine Le Pen, la patronne du RN. Alors certes, ce n'était pas le mouvement initialement dont vous rêviez, mais vous êtes arrivé exactement là où vous le souhaitiez.
Sébastien Chenu, réaction.
Madame, si vous saviez ce que je souhaitais dans la vie, vous n'auriez pas cette conclusion bien hâtive en disant qu'on arrive là où on le souhaite parce qu'on a rejoint un parti politique. Vos portraits partent
Allez-y,
toujours bien et s'achèvent toujours. On a le droit aussi à sa part de secret. Simplement, je connais le procès en opportunisme. Il est fait dès qu'on rejoint, et Thierry Mariani l'a subi également, le Rassemblement National. Moi, lorsque j'ai rejoint ce mouvement, après avoir voté toute ma vie, dès 18 ans, puisque vous avez voulu parler d'âge, contre le référendum de Maastricht, pour des listes eurosceptiques au moment des élections européennes, les listes Pasqua-Villiers, et je les ai même, j'ai même milité, c'est-à-dire que je n'ai pas fait ça de façon cachée, eh bien, je n'avais plus de mandat lorsque j'ai rejoint le Rassemblement National, je ne devais plus rien à une famille politique à laquelle j'ai été fidèle, effectivement, de l'âge de 15 ans à 40 ans. Je pense que certains ont eu des parcours peut-être moins longs en fidélité,
mais j'ai considéré... Christine Lagarde, Nathalie Kosciusko-Morizet.
Christine Lagarde, j'ai été son salarié, j'ai été son chef de cabinet, et je dois dire que si nous avons des différentes approches politiques, je ne faisais pas de politique chez Christine Lagarde. Un membre de cabinet ministériel, d'ailleurs, ne s'exprime pas, il est au service de son ministre. J'ai considération et respect pour Madame Lagarde, et je peux avoir aussi une analyse personnelle aujourd'hui, que je suis moi-même un acteur politique élu nationalement, qui ne soit pas en accord avec elle. Je vois pas bien le rapport. Quant à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait eu l'amabilité de venir me chercher parce qu'elle souhaitait, à Paris, peut-être incarner une certaine ouverture sur des questions de société, elle a vite démontré qu'elle était à peu près ce qu'il y avait de pire en politique.
Je rebondis quand même sur opportunité, en opportunisme. Quand effectivement vous approchez Nathalie Kosciusko-Morizet, ou plutôt Nathalie Kosciusko-Morizet donc vient vous chercher,
ça marche pas.
Et vous reconnaissez quand même que vous êtes allé voir un petit peu du côté d'Anne Hidalgo.
J'ai rencontré Anne Hidalgo à un anniversaire de quelqu'un que je ne dévoilerai pas, et je lui dis j'espère que vous battrez Nathalie Kosciusko-Morizet.
Vous avez rencontré deux de ses adjoints, oui, Julliard et Girard, pour savoir si c'était possible de rallier Anne Hidalgo.
Non, et j'ai même dit j'aurais beaucoup de mal à siéger avec des Verts et des élus communistes.
Ils en parlent très ouvertement dans un article du Monde.
Et si Christophe Girard veut parler de notre conversation, je serais très heureux de pouvoir la dévoiler. J'ai beaucoup trop d'estime et de tact pour dévoiler ce que lui-même souhaitait faire. Au-delà de ça, j'ai vu avec un certain plaisir Nathalie Kosciusko-Morizet se faire battre à la mairie de Paris, car elle est à peu près ce qu'il y a de plus détestable en politique. Elle est exactement le contraire de ce qu'on aime, c'est-à-dire ou de ce qu'on attend d'un leader politique, c'est-à-dire le respect à la fois de l'adversaire et de ses troupes, la capacité à porter un message avec une cohérence intellectuelle, être prête à tout. Enfin, elle-même se définissait comme une tueuse. Mais ne nous acharnons pas.
Elle a quitté la vie politique.
Je lui souhaite d'être très heureuse. Et moi, j'ai quitté ce qui était la droite parlementaire.
Françoise Fressouze.
Pour en revenir à cette espèce de tentative quand même d'alliance entre vous et la droite, la grosse différence, au fond, c'est la doctrine économique. La droite est plutôt libérale et vous êtes plutôt souverainiste. Comment est-ce que vous faites ce rapprochement? Vous avez servi, au fond, Christine Lagarde, puis vous êtes maintenant dans le camp souverainiste. Alors, est-ce qu'il y a des passerelles? Et est-ce qu'il faut revoir la doctrine du Rassemblement national pour attirer davantage d'élus de droite et d'adhérents de la droite?
Je dirais que c'est plutôt à la droite de revoir sa doctrine économique, car si j'en crois ce que les Français ont choisi lors des élections européennes et présidentielles, ils sont plus sensibles au modèle que nous proposons, dans lequel l'État, effectivement, a un rôle de régulateur central, que plutôt à la dérégulation incarnée par les propositions ultralibérales de François-Xavier Bellamy ou de Laurent Wauquiez en son temps ou d'un certain nombre de leaders de droite. Donc je crois que c'est plutôt à eux de faire leur mue. Nous, vous savez, notre angle, il est toujours le même. Il est celui de protéger et développer les PME, les TPE, l'esprit d'entreprise, mais de protéger celles et ceux qui, à travers leurs efforts, leur travail, font fonctionner notamment l'industrie et l'économie de notre pays. Donc la protection du modèle social français, oui, est un des piliers du discours du Rassemblement national, que les Républicains ne s'y retrouvent pas, explique probablement leur échec.
Alors justement, à propos de doctrine économique, le gouvernement a proposé à donner les grandes lignes de la réforme de l'assurance chômage, manifestement durcissant un peu les conditions d'indemnisation. Est-ce que vous considérez que ça va dans le bon sens? Pour certains disent qu'il y a des gens qui abusent ou qui profitent. Ou est-ce que vous considérez au contraire que c'est rendre les choses plus dures pour les gens qui gagnent mal leur vie ou qui se trouvent en chômage de longue durée et qui ne trouvent pas de travail, notamment dans votre région, puisque cette région a été évoquée.
Si le choix du gouvernement avait été de s'attaquer aux fraudeurs, nous l'aurions probablement suivi. Or, il a été de s'attaquer aux chômeurs. Les chômeurs ne sont pas des fraudeurs. 60% des chômeurs sont non indemnisés. 60% des gens qui sont en recherche d'emploi ne touchent rien. Nous avons, de l'autre côté, un système qui est excédentaire, dont on sait très bien que, en réalité, ce qui coûte particulièrement à ce système, c'est la gestion financière de Pôle emploi.
Le régime est très largement déficitaire.
Non, vous savez, en matière d'assurance chômage, les cotisations rapportent 35 milliards et puis la dette coûte 35 milliards. Donc on a un système qui est aujourd'hui à l'équilibre. Mais s'attaquer aux chômeurs me semble être une erreur fondamentale. Je ne parle pas même d'éthique et de morale, mais je pense qu'en plus, un, ça ne ramène rien économiquement. En tous les cas, le fait d'attaquer les cadres, on l'a vu à travers la dégressivité de l'assurance chômage, n'aura pas d'efficience, mais surtout ne permet pas le retour à l'emploi des personnes qui elles-mêmes se verront indemnisées de façon de moindre importance. Donc ça n'a pas d'efficacité.
Fallait faire quoi?
Je vais terminer si vous me permettez. Je pense qu'il y a derrière cela un ballon d'essai, voyez-vous, qui est lancé par le gouvernement sur les cadres, en parlant de la dégressivité des assurances chômage, qui tente ce gouvernement de finalement se dire on va faire évoluer notre système vers quelque chose de plus anglo-saxon, dans lequel les protections de l'État vis-à-vis des gens qui recherchent du travail seront à l'avenir moins importantes que celles qui sont connues. Or, ce système, plus anglo-saxon, n'a pas d'efficacité économique, ne remet pas les gens sur le chemin de l'emploi. Et puis, je pense que le gouvernement cherche à faire une économie sur le dos des demandeurs d'emploi.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ?
Alors, la première chose, c'est de s'attaquer à la fraude. Mais nous le demandons depuis des années.
Mais c'est ce qu'ils font.
Non, mesdames, ce n'est pas ce qui est fait.
En renforçant les contrôles.
Non, ce n'est pas ce qui est fait. C'est abroger le travail détaché. Mais les contrôles ne sont pas renforcés. Il a été supprimé l'an passé dans le budget une centaine de postes d'inspecteurs chargés des contrôles du travail au ministère des Finances. Par le ministère des Finances, pardon.
C'est vérifier que les gens cherchent bien du travail, c'est ça?
Non, mais et surtout qu'il n'y a pas de fraude. Je vais vous donner un exemple. La fraude, elle est sociale et elle est fiscale dans notre pays et elle coûte terriblement aux Français. Je rappelle qu'il y a également 200 millions de retraites frauduleuses versées dans des pays étrangers.
Mais là, parlons de l'assurance chômage, qu'aurait-il fallu faire ?
Eh bien, je vous le dis. D'abord, c'est s'attaquer à la fraude. Ensuite, c'est, je crois, mettre le paquet sur la formation.
Mais c'est ce qu'il faut aussi.
Non, madame.
Ça ressemble exactement au plan présenté par Noël Perrico. Non, pas du tout. Dans l'ordre.
Pas du tout.
Exactement.
Non, pas du tout. Et puis revoir. Non, mais ça, c'est forcément le gouvernement vous présente ça sous les meilleurs auspices, mais la réalité n'est pas celle-ci.
Revoir
le financement total de Pôle emploi. 3,5 milliards pour Pôle emploi. Il y a un résultat, on va dire, assez modeste en termes d'efficacité de Pôle emploi. Ce n'est pas en ajoutant 100 conseillers emploi, 100 postes de conseillers emploi qu'on réussira. Je pense qu'aujourd'hui, le système d'aide des chômeurs, ou en tout cas des personnes en recherche d'emploi, est obsolète et ne convient pas. Là, on a des pistes sur lesquelles il faut peut-être travailler. Mais le gouvernement préfère finalement des formules qui sont peut-être symboliques, mais qui vont, pour reprendre les termes d'Emmanuel de Chypre, un économiste bien connu sur BFM, être un bain de sang pour les personnes en recherche d'emploi.
Donc le plus dur pour les plus pauvres, vous considérez, parce que vous avez parlé des cadres et des gens modestes, vous considérez que c'est une réforme très de droite,
J'ajoute, madame, qu'il y a dans notre pays une accélération de la destruction des emplois des classes moyennes, des ouvriers et des employés, et une hausse des emplois précaires, type chauffeur, livreur de pizza, chauffeur Uber, profession du nettoyage, etc. C'est qu'on voit bien que notre économie, dont l'école économique de Paris a dit que la France avait été la plus impactée par la mondialisation, on voit bien que cette économie, elle est en train de changer, et que le président de la République a choisi d'accompagner cette précarisation et cette libéralisation de l'économie. Il refuse de faire du patriotisme économique, il refuse la réindustrialisation de notre pays, c'est effectivement ce qui nous sépare.
Justement, Françoise Fressoz, à propos d'un accord de libre-échange.
Alors, dans l'actualité, il y a la signature vendredi entre l'Union européenne et le Mercosur, qui c'est en fait une alliance de pays, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, pour au fond faire un espace de libre-échange et atténuer les barrières douanières. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'industrie française, pour nos exportateurs ?
Sébastien Chenu.
Cet accord va avoir des conséquences énormes. On nous le présente comme étant sympathique et positif pour l'industrie française en oubliant qu'il est en train de tuer, peut-être même définitivement, notre agriculteur.
Alors attendez, il y a des clauses de sauvegarde.
Elles sont assez risibles, madame. Elles sont assez risibles parce que les contreparties pour le monde agricole vont être effectivement très importantes. 99 000 tonnes de bœuf importées. De bœuf qui n'a pas évidemment la même façon d'être traité, j'allais dire, par ces pays du Brésil, de l'Uruguay, du Paraguay, que dans nos pays européens. J'ai les chiffres sous les yeux. Une culture, j'allais dire, industrielle, de l'antibiotique, des hormones de croissance, des pesticides, de la déforestation, qui vient interroger quand même la sincérité écologique.
On peut pas encore analyser en profondeur l'accord parce qu'on ne sait pas exactement les contreparties, mais visiblement, il y a eu des garanties données à la fois sur la protection climatique, sur la protection contre tout ce dont vous parlez. Globalement, vous dites « je suis hostile au libre-échange », c'est ça votre position ?
Je suis hostile à ce type de libre-échange, oui madame. Je pense que ce type de libre-échange vient montrer du doigt que ce système économique dans lequel on accepte d'importer du bœuf nourri aux antibiotiques ou aux hormones, du poulet, dans lequel on vient mettre à bas notre agriculture, n'aura que des conséquences funestes, et je reprends par là la déclaration de Pascal Durand, député de La République En Marche. Il y a des députés de La République En Marche qui sont très mal à l'aise avec cet accord tant vanté par le président de la République, parce qu'ils ont compris que les clauses de garantie n'étaient pas au rendez-vous. Alors, il y aura un vote, puisque ça va passer devant le Parlement européen. On verra ce que font les députés de La République En Marche. Mais en ce qui concerne les députés du Rassemblement National...
Vous pourriez vous allier avec Pascal Durand ?
C'est plutôt lui, puisque nous voterons contre et nous accueillerons avec bienveillance des votes hostiles de messieurs Durand ou de Serle, qui sont députés de La République En Marche, qui le souhaitent, parce que cet accord va définitivement tuer notre agriculture.
Est-ce qu'il peut y avoir à cette occasion au Parlement européen une alliance entre l'extrême gauche et l'extrême droite ?
Alors nous ne sommes pas l'extrême droite, donc vous demanderez aux gens d'extrême droite ce qu'ils en pensent. En
tous les cas, 75% de Français qui pensent que vous l'êtes.
Mais en tout cas, ils sont peut-être tous à France
ils
Inter.
Ils sont tous des journalistes de gauche.
Mais vous êtes prêts à ça ou pas ?
Nous opposerons à cet accord et à ce traité et nous accueillerons évidemment avec bienveillance les parlementaires européens d'où qu'ils viennent qui s'y opposeront parce que c'est l'intérêt national.
Karine Becker.
Alors nous sommes à 9 mois des élections municipales. Vous tendez la main, on en parle depuis le début de l'émission, au maire sortant LR. Est-ce que c'est parce que vous avez du mal à trouver des candidats ?
Non, Sébastien Chenu. Non, je ne crois pas qu'on ait du mal à trouver des candidats. Je crois que la fonction de maire intéresse, il faut bien le dire, beaucoup moins les Français. On peut comprendre, il y a beaucoup d'explications pour ça, puisque dans tout...
Au contraire, on dit que c'est l'élection que préfèrent les Français,
oui,
que c'est la relation la plus forte qu'ils ont avec leurs élus.
Ce n'est pas antagoniste du fait qu'il y ait 50% des maires qui se posent la question de se représenter, et on le voit dans les communes en particulier rurales, où peu de gens ont envie d'assumer des responsabilités.
Donc vous avez quand même un petit peu de mal à trouver des candidats ?
Non, mais comme pas moins que les autres partis politiques. Nous aurons des têtes de liste, des listes dans tous les départements, dans tous les chefs-lieux, et probablement dans toutes les villes de plus de 20 000 habitants. Mais voyez-vous, chez moi, dans ma circonscription, je suis en train de boucler 7 ou 8 listes qui sont dans les villes de plus de 5 000 habitants de ma circonscription, et nous présenterons des listes de large rassemblement. Donc on n'aura pas plus de mal que les autres.
Plus d'un tiers des conseillers municipaux RN qui ont été élus en 2014 ont fini par démissionner. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Ça veut dire quoi en fait ?
C'est vrai parce que 99% de nos élus se sont retrouvés conseillers municipaux d'opposition. Parfois seuls face à l'hostilité de 34 élus. Et c'est vrai qu'être conseiller municipal d'opposition, quand on fait aussi autre chose dans la vie, car conseiller municipal d'opposition, et je le rappelle comme bien souvent conseiller municipal tout court, ce sont des fonctions qui ne sont pas... défrayés, pas indemnisés, et bien se retrouver du soir au matin cloué au pilori dans sa propre ville par 34 élus majoritaires n'est pas une partie de plaisir, et qu'il y a des candidats qui sont devenus des élus d'opposition qui ont eu du mal à aller au bout de ce mandat parce que c'était effectivement très difficile de se retrouver face à cette hostilité.
Vous n'êtes pas suffisamment formé finalement pour le faire ?
Peut-être, et on avait peut-être des marges de progression, et aujourd'hui nous donnons les moyens de ne pas nous renouveler ce type de difficulté.
Encore une question sur le sujet, et on passe à des questions d'actualité, Françoise.
Il y a des parties du territoire sur lesquelles vous ne présentez pas de candidats, j'ai cru comprendre. L'Ouest notamment.
Ah si, nous présenterons
des
candidats.
Il y en aura partout.
Bien sûr, nous aurons des candidats à Rennes, à Nantes, enfin dans les départements de l'Ouest, au même titre que dans les autres départements.
Quel est votre objectif sur ces municipales ? Combien de villes ?
Il n'est pas chiffré. Par définition, puisque nous partons d'abord d'une dizaine de maires et nous souhaitons les voir tous réélus, et que tout ce qui sera, toutes les villes qui seront conquises, et les Français qui choisiront une gestion différente, une gestion Rassemblement National, eh bien s'additionneront à ces 10 maires qui, je n'en doute pas, seront réélus. Donc on n'a pas d'objectif chiffré, j'allais dire, pas plus nous d'ailleurs que les autres. Je pense que En Marche, qui part de zéro, n'a pas d'objectif chiffré non plus.
Et vous assumerez votre étiquette RN ou pas ? Parce que Louis Alliot, par 100.
Mais une étiquette, c'est fait pour être assumée et dépassée. Assumé parce que, évidemment, vous imaginez bien, vous m'avez présenté comme ce que je suis, c'est-à-dire le porte-parole du Rassemblement National, et je l'assume parfaitement, et dépassé dans la mesure où moi, j'accueillerai sur nos listes, dans le Nord, mais nous le ferons globalement dans toute la France, des gens qui viennent d'ailleurs.
Mais donc, une liste politique. L'étiquette de la liste, elle sera quoi?
Selon les villes, Louis Alliot l'a dit, il fera un rassemblement local, mais tout le monde sait qui est Louis Alliot, parce que sa personnalité est très forte, mais elles seront Rassemblement National, ou soutenues par le Rassemblement National. Vous savez, on ne met pas notre étiquette dans la poche, et croyez-moi, on sait très bien, et on pourra compter sur vous, pour rappeler qui sont les listes du Rassemblement National.
Ah oui?
Et quelles sont les listes? Ah bah vous serez toujours là pour indiquer que tel candidat est soutenu par le Rassemblement National.
Si vous avancez masqué, il faudrait bien éclairer les électeurs.
Je viens de vous dire très concrètement.
Dites les choses très clairement, on n'aura pas besoin de le faire.
Très concrètement, nous n'avons aucun problème avec ça, nos candidats soutenus par le Rassemblement National ou adhérents du Rassemblement National l'assumeront. C'est un peu une habitude dans la maison que d'assumer les choses.
Et on va passer à un autre sujet parce que les élections.
Louis Alliot, qui a passé 35 années de sa vie dans ce parti, parte sans étiquette. C'est bien vécu dans le parti.
Est-ce que vous êtes en train de dire que vous ignorez que Louis Alliot est membre du Rassemblement National ?
Non.
Je pense que 100% de ses électeurs savent très bien que Louis Alliot est membre du Rassemblement National. Il veut élargir localement, comme d'ailleurs tous les maires font. Partout en France, sa liste, en accueillant à lui des gens qui n'ont pas d'engagement forcément politique. Mais vous savez, c'est ce que font aussi tous les élus, d'accueillir sur leur liste des gens qui n'ont pas d'étiquette politique.
Alors, Nathalie Sacré-Cœur. Le gouvernement s'est décidé à sauter le pas en matière de PMA. Ça sera au programme du Conseil des ministres du 26 juillet. Est-ce que vous considérez que c'est un débat porteur? Est-ce que vous considérez que vous devez vous en mêler beaucoup? On a entendu il y a quelques jours Marine Le Pen sur BFM chez Routel-Krief. Y aller vraiment carrément? Est-ce que vous pensez que c'est le sujet de l'année ou alors que tout ça, c'est pas exactement? Confère les résultats de Monsieur Bellamy et évidemment ce que voulait Monsieur Wauquiez, c'est-à-dire se focaliser sur les sujets sociétaux. Est-ce que c'est une bonne plateforme pour vous?
Voilà. C'est un débat sérieux. Il vient dans le cadre du projet de loi bioéthique qui comporte plusieurs sujets, notamment la congélation des ovocytes, notamment le don d'organes, et puis il y a la PMA. C'est un ensemble plus large qui est celui du projet de loi bioéthique. La PMA, d'abord, moi je veux redire le respect que nous avons pour les gens qui veulent avoir des enfants. Avoir un enfant, c'est un projet de vie intéressant, mais il ne doit pas se substituer à l'intérêt de l'enfant, et je vais y venir dans quelques instants. Je veux redire aussi que nous n'avons aucun problème avec ce que j'appelle la parentalité. On préfère largement, évidemment, voir un enfant heureux, élevé peut-être par deux femmes ou par deux hommes, que malheureux, tabassé par des couples hétérosexuels. Ce n'est pas un problème de parentalité, mais c'est un problème de filiation, et ça nécessite un aménagement du droit qui a et qui aura des conséquences.
Qui est envisagé dans le texte de loi.
Oui, mais qu'est-ce que nous propose le gouvernement? Il nous propose en réalité trois voies qui posent toutes, je crois, des problèmes. L'extension de la PMA aux couples de femmes, puisque c'est cela dont il s'agit.
Et aux femmes seules.
Et aux femmes seules, via une prescription de comaternité. Là, je parle des couples. Via une prescription de comaternité. Or, le Conseil d'État vous dit que cela ne reflète pas la réalité de la chose, puisque cette présomption de comaternité, elle doit refléter la réalité biologique. Un couple de femmes, par définition, ne peut pas biologiquement avoir deux enfants. La deuxième solution, c'est le fait de reconnaître l'enfant avant qu'il naisse et de le faire inscrire comme tel, donc reconnaître par les deux parents, inscrire comme tel sur le livret d'état civil. Ça crée une distorsion également avec les enfants biologiques. Et puis la troisième chose, c'est la création d'un mode de filiation qui ne serait destiné qu'aux couples de femmes, c'est-à-dire qu'aux couples homosexuels, et qui créerait de fait demain, et c'est là où la difficulté supplémentaire vient, une distorsion de droit
entre les couples d'hommes.
Car les hommes vont dire, puisque les couples de femmes ont le droit, nous réclamons la même chose, avoir ce même droit à l'enfant, et donc, puisque la PMA n'est pas possible pour les hommes, on en vient à la GPA, marchandisation du corps.
Philosophiquement, qu'est-ce que vous en pensez?
Philosophiquement, une vraie question de conscience.
Vous, l'ancien président de Guélib.
Oui, mais moi j'avais dit au moment de Guélib, que j'étais favorable aux droits des couples homo, parce qu'ils c'était les droits de bail, les impôts, la reconnaissance devant une autorité, parce que je pense que vivre en couple, quel que soit le nombre d'années, ça représente quelque chose. Mais j'avais émis dès l'époque, et je l'avais même écrit dans un hebdomadaire, que ces problèmes de filiation qui nous amèneraient à la GPA ne pouvaient pas avoir notre assentiment.
Mais c'est curieux parce que vous allez tout de suite vers la GPA, alors qu'on peut très simplement poser le problème par comparaison avec les couples hétérosexuels qui ont recours... Non, à la PMA, que ce soit à travers la FIV, que ce soit à travers d'autres...
À la GPA, parce que, et si je n'ai pas été très clair, je vous prie de m'en excuser, mais parce que vous créez un état de droit qui va être contesté donc, par les couples d'hommes. Ce sera d'ouvrir la GPA.
Au nom de la rupture d'égalité entre les couples d'hommes et les couples de femmes, est-ce qu'il faut ne pas autoriser la PMA parce que c'est la porte ouverte à la GPA? Je voulais juste savoir comprendre ce que vous pensez.
Non, je ne crois pas. Et puis on l'a touché du doigt, un problème également sur l'accès à son ascendance qui n'est pas réglé. Est-ce qu'il y aura un accord du donneur? Quand est-ce que ce sera
avant? Ça, c'est prévu dans le texte de loi.
Non, justement, ce sont toutes les interrogations. Non, mais est-ce qu'il y aura l'accord du donneur? Est-ce qu'il y aura l'accord du donneur? À quel moment? Est-ce que ce sera avant le don ou après le don? Donc tout ça n'est pas automatique et je pense que ça soulève des vrais problèmes de filiation, des vrais problèmes de rupture d'égalité du droit, qui fait que je crois aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de soutenir cette proposition.
Permettez que je termine ma phrase, madame.
Aujourd'hui, nous voterons contre, évidemment.
Tous au sein du groupe,
je le pense. Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec mes collègues. Mais en tous les cas, c'est la position de notre mouvement que je vous rappelle ici. Mais il est plus facile aujourd'hui de dire nous soutenons la PMA lorsqu'on est un député, c'est quand même beaucoup plus confortable plutôt que d'expliquer
confortable.
Oui, c'est plus facile dans le discours ambiant de dire oui, on est pour la PMA plutôt que d'expliquer à travers des éléments
parce qu'une majorité de Français soutient la PMA.
Non mais d'accord, mais je veux dire, ma démonstration vous démontre que les questions que je pose, elles ne sont pas faites pour montrer du doigt des couples, elles ne sont pas faites pour le plaisir d'être contre quelque chose, elles posent des questions fondamentales pour notre société et qu'effectivement ce n'est pas forcément une position de confort que de dire que la PMA
donc
n'est pas
contre
une bonne chose pour notre société.
Quand vous avez entendu Marine Le Pen dans l'archive que diffusait Karine Bécard d'Amos et Sébastien Chenu.
J'ajoute que je crois que les sujets de société, sincèrement, pourrait et devrait être tranché par la société. C'est aussi en cela que je crois que le référendum
a
beaucoup d'utilité, parce que ça permet de trancher des sujets dans lesquels il n'y a pas de consensus dans notre société.
En l'occurrence, l'abrogation de la loi Taubira qu'on entendait réclamer par Marine Le Pen, c'est aussi quelque chose que vous metteriez au référendum ?
Écoutez, je n'ai pas réfléchi sur l'abrogation de cette loi. Je pense qu'il faudra l'évaluer et puis prendre position.
Enfin, vous n'avez pas réfléchi. Elle prononçait ses mots devant vous quand vous l'avez rejointe.
Il y a quelques années, Marine Le Pen a rappelé sa position qui, moi, m'allait bien, c'est-à-dire la capacité à reconnaître les mêmes droits pour les couples, quels qu'ils soient, sans que ça s'appelle forcément le mariage. Moi, c'est exactement ce que j'ai défendu à l'époque. Reconnaître les mêmes droits sans que ça s'appelle
l'abrogation de la loi
le mariage.
En 2014.
Nous évaluerons cette loi, nous verrons ce qu'elle a donné en termes de résultats et nous prendrons position. Bah oui, il faudra bien l'évaluer un moment, cette loi.
Pour vous, il y a encore possibilité de la contester ou de l'abroger.
Mais toutes les lois doivent être évaluées avant d'avoir une position déterminée. Mais
qu'on évalue le nombre de gens qui se sont mariés
On verra si cette loi a créé des difficultés dans notre société, si elle a créé des fantasmes qui avaient été à l'époque instrumentalisés par certains. Moi, je suis très à l'aise là-dessus. Je souhaite qu'on évalue cette loi.
Il est possible qu'on doive l'abroger. Selon vous.
Vous savez, c'est aux Français qu'il faudra, je viens de vous le dire, demander
si cette loi pose des problèmes. La soumettre
si
à un référendum.
Si cette loi pose des problèmes, c'est pour ça qu'il faut l'évaluer. Eh bien, il est possible qu'on puisse un jour demander aux Français ce qu'ils en pensent. Si elle pose des problèmes, si elle n'en pose pas, eh bien, nous serons en capacité de vous répondre.
Et vous n'avez pas l'avis là-dessus, c'est assez curieux.
Votre raisonnement, il s'établit comme si, au fond, les frontières n'étaient pas très poreuses. Il se passe plein de choses partout en Europe.
C'est vrai.
Et au fond, si vous refusez la PMA, on peut aller la faire ailleurs. Et donc, comment vous résolvez cette difficulté-là ?
Non, mais madame, Sébastien Chenu. Nous faisons du droit parce que nous manquons de courage et de charité, disait André Comte-Sponville.
Enfin,
et
c'est
nous
votre
nous
boulot,
réfugions.
Hein. Attendez,
nous nous réfugions parfois derrière le droit pour justifier une absence de vision pour un pays. Qu'il y ait des pays qui fait le choix de la PMA, c'est leur problème ou c'est leur solution, etc. Que nous fassions, et c'est le cas également par exemple sur d'autres problèmes de société, comme le cannabis, etc., que nous ayons des positionnements qui ne soient pas les mêmes que ceux de nos voisins, moi ne me choque pas. Nous avons le droit d'avoir un système de valeurs ici qui ne soit pas le même que celui de nos voisins, et nous n'avons pas à nous en excuser.
Je voudrais aborder un autre sujet de société, c'est l'affaire Vincent Limbert. Est-ce que vous êtes d'accord avec la Cour de cassation qui a ordonné vendredi en fin de journée la fin des traitements? Est-ce qu'il faut permettre de laisser mourir Vincent Imbert?
Vous savez, je vous ai fait cette citation d'André Comte-Sponville qu'on pourrait adapter. Moi, cette affaire Lambert me met mal à l'aise sur le fond et sur la forme. Sur la forme, parce que ce côté feuilleton est particulièrement difficile à supporter, et pour les personnes qui sont concernées en premier lieu, je l'imagine. Pour le reste, la fin de vie, moi je crois que la loi Leonetti est la meilleure réponse aujourd'hui en l'état actuel des choses. Vincent Lambert sort peut-être un peu de ce cadre. Mais je pense qu'il faut s'en tenir aujourd'hui. Il faut s'en tenir aujourd'hui à la loi Leonetti. C'est en tous les cas ma conviction. Ça fait
la société française n'est pas assez mûre pour accéder à.
Ce n'est pas l'idée de la société française. C'est un problème de société. Et là encore, je ne suis pas sûr que ce soit le droit qui résolve tous les problèmes de société.
Enfin, c'est votre travail.
Et la loi Leonetti.
Faire la loi.
Et je vous dis, il y a une loi, la loi Leonetti, et je la trouve satisfaisante. Il est possible que la loi ne résolve pas tous les problèmes que Vincent Lambert, et c'est pour ça qu'on a ce feuilleton juridique, passe à travers les difficultés, la capacité que cette loi aurait à répondre aux problèmes. Mais je crois que la loi Leonetti demeure la meilleure réponse.
Nathalie Saint-Cricq.
Une petite question d'actualité. Nicolas Sarkozy fait son retour en librairie. Vous riez. Que vous inspire ce retour? Alors un sourire, déjà on l'a vu.
Oui,
l'envie de le lire, l'envie de l'acheter.
Lire, voilà.
Moi je lis tout ce qui passe. Avec beaucoup de gourmandise. Vous dites qu'il a fait son retour en librairie. Est-ce vraiment un retour juste en librairie ou n'est-ce pas un énième retour en politique?
C'est la question que je vous pose.
Je note aussi en parallèle que 76% des Français avaient déclaré ne pas voir revenir le.
Oui, mais ce sont des journalistes
Nicolas
de gauche.
Sarkozy.
On le sait maintenant, grâce
probablement,
à vous.
Probablement. Et je suis sûr que si
ils travaillent tous à France Inter.
Que si on faisait ce sondage dans la maison France Inter,
parlementaires montrait au-delà de 76%
vous
à l'idée
surpris.
De voir revenir Nicolas Sarkozy en politique.
Pour être plus sérieuse, est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose sur le manque de leadership et d'incarnation qu'il peut y avoir chez les Républicains? Quand vous voyez Monsieur Jacob qui va prendre la tête des Républicains, qui est très estimable, et tous les candidats, est-ce que finalement cette envie de Sarkozy que certains ont ne veut pas dire qu'il y a besoin de leaders qui font bouger les choses, qui sont un peu incarnés, qu'on peut pas mettre, pas n'importe qui, mais...
Le problème des Républicains, en désignant, ils ont indiqué qu'ils allaient désigner un nouveau président de leur parti politique et que celui-ci s'engagerait à ne pas être candidat aux élections présidentielles. Et bien que les Républicains nous disent qu'ils ne s'engageront plus à faire de politique, ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde de comprendre exactement où ils en sont, parce que je pense que ce n'est pas un problème de leadership, c'est un problème de conviction. Plus personne ne sait ce que défendent les Républicains, et à partir de là,
mais
il n'y a plus grand
Nicolas
et pas
Sarkozy,
grand monde pour défendre le vide.
Vous l'avez connu quand vous
Et je l'ai même soutenu et j'ai même voté deux fois pour lui.
Qu'est-ce qu'il incarne pour vous ?
Le passé.
Et
Françoise Fressoze.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre ancienne famille politique ? C'est quoi votre analyse ?
Je crois qu'à partir du moment où ils ont abandonné ce qui faisait l'essentiel des combats menés ensemble, c'est-à-dire la défense de la souveraineté française, la défense du modèle social, ça c'était un des principes gaullistes, voyez-vous, eh bien ils ont tout abandonné en vertu d'un schéma ultra-libéral qui les a fascinés, incarné par le fait que des gens comme Bruno Le Maire aient rejoint Emmanuel Macron, et puis doublé d'un manque total d'efficience, de résultats lorsqu'ils ont été aux manettes, sur l'insécurité, sur l'immigration, sur le chômage, eh bien tout ça vous donne ce type de résultat qui est à peu près le même que celui du Parti Socialiste et qui amènera mes collègues des Républicains à dire « je suis de droite » et à mourir en disant « je suis de droite ». Ils finiront par mourir en disant « je suis de droite », ils feront 5, 6, 7, 8% avec un réseau d'élus locaux, vous me direz « c'est déjà bien », mais ils n'incarneront plus une possibilité d'alternance, cette possibilité que nous sommes en train de construire.
Alors vous dites « on est en train de construire l'alternance » et quand on vous écoute sur tous les projets, on sent qu'il y a du contre partout, mais on ne voit pas le projet alternatif crédible, c'est-à-dire sur l'assurance chômage, par exemple. On ne voit pas comment vous équilibrez les choses. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous noyer dans une opposition systématique ?
Non, madame, parce que, voyez-vous, nous faisons des propositions chaque semaine à l'Assemblée nationale, sur tous les sujets dont je vous ai parlé. Chaque semaine, elles sont retoquées par la majorité qui ne voit en l'opposition que des empêcheurs de tourner en rond. Nous battons pour des choses. Nous battons pour la défense du modèle social français. Nous battons pour la défense de l'identité française.
Pour l'écologie, nous battons
pour le localisme, parce que considérons que ce...
Ça résout pas quand même tous les problèmes.
Il y a quand même un sujet d'actualité, malgré tout, sur lequel on voulait vous entendre, Sébastien Chenu, puisqu'on va savoir assez rapidement si vous êtes pour ou contre. Hier, le bateau humanitaire Sea-Watch 3 est entré dans le port de Lampedusa. Sa capitaine, Carola Rackete, qui avait forcé le blocus des eaux territoriales italiennes, a été arrêtée. Elle avait à bord de ce bateau 42 migrants. Qu'est-ce que vous inspire cet épisode qui se passe une nouvelle fois sur les côtes italiennes?
Moi, je n'admets pas que des gens, des passeurs, imposent à des États...
Des passeurs?
Bah oui, des passeurs, des gens qui font passer des migrants, imposent à des États...
On peut appeler ça une ONG humanitaire.
Ça ressemble à des passeurs. Certaines ONG humanitaires ressemblent souvent sauver à des
vies.
Passeurs. Non, il ne s'agit pas de sauver des vies. Dans le cas présent, il s'agit souvent de commerce pour certaines organisations dites humanitaires.
Cas. Vous pouvez, en tous les cas, considérer que c'est l'idéologie,
imposer à des États qui ont élu démocratiquement à leur tête des dirigeants qui ont comme ligne de conduite, et ce serait bien que ce soit la même chose en France, le refus de toute nouvelle immigration incontrôlée, essayer d'imposer par la force à des États démocratiques ce type de procédure, ce type d'acte.
Mais il aurait fallu laisser bloquer ce navire dans les eaux internationales et les laisser pourrir.
Elle a expliqué qu'ils étaient 42, elle a expliqué qu'il faisait une chaleur à crever, d'ailleurs on est tous payés pour savoir que ça a été une horreur, elle a expliqué qu'ils ne pouvaient pas boire, qu'ils allaient mourir dans le bateau. Qu'est-ce
madame,
que vous faites si vous êtes capitaine madame, de ce bateau? Est-ce qu'à un moment donné, vous dites...
Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à boire et à manger à des gens. Vous ne m'entendrez jamais avoir ce discours-là. J'espère que ce n'est pas un procès d'intention.
Pas du tout.
Mais on peut très bien secourir, c'est-à-dire porter secours à des migrants qui n'ont ni à manger ni à boire et les raccompagner là d'où ils viennent. Parce que si nous ouvrons une possibilité, en tous les cas l'Italie ouvre cette possibilité d'accueil supplémentaire, alors ce sera 10, 15, 20 bateaux demain. Et nous n'en finirons pas. Il faut une
certaine ligne de fermeté. Matteo Salvini a démontré sa fermeté, demandant d'ailleurs à l'Allemagne, je crois, et à d'autres pays de prendre à la charge ces migrants.
La France,
eh bien, je
notamment.
Crois qu'il a entièrement raison.
Et donc la France fait bien d'accueillir un certain nombre de ces migrants qui étaient à bord du Sea-Watch 3.
Le président de la République n'a aucune fermeté en ce qui concerne ni l'immigration clandestine, ni l'immigration légale.
Mais Matteo Salvini demande une solidarité européenne, la même qu'Emmanuel Macron. En fait, vous ne défendez pas la même politique migratoire avec Matteo Salvini. Entendons-nous bien aussi.
Monsieur Salvini défend les intérêts de l'Italie. Nous, nous défendons les intérêts de la France et nous considérons qu'accueillir des migrants et une immigration incontrôlée dans notre pays va à l'encontre des intérêts de la France.
L'émission se termine. Merci Sébastien Chenu d'avoir été notre invité. C'était la dernière de la saison. Merci à toutes les trois. C'est un bonheur de travailler avec vous. Une chance aussi. Merci au grand monsieur, au fantastique Alexandre Gilardi, à nous croches, ainsi qu'à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Et bravo à tous, vous faites un travail formidable. Merci de nous avoir suivis tout au long de la saison, d'avoir fait de ce rendez-vous le premier rendez-vous politique du PAF. Et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour d'autres questions politiques. Passez un très bel été.